Vous écoutez RTL. 6 minutes pour trancher.
Bonjour Éric Laurent.
Bonjour Yves Calvi.
Je ne pensais vraiment pas avoir un jour à vous poser la question que je vous pose maintenant. Avez-vous accepté de ne pas publier votre dernière enquête contre de l'argent du roi du Maroc ?
Oui, mais je peux peut-être aussi expliquer les circonstances.
C'est du chantage ou pas ?
Ah, certainement pas. Certainement pas. Moi, ce qui m'a surpris dès l'instant où je suis sorti, c'est de voir l'extraordinaire rouleau médiatique qui a été mis en place, c'est-à-dire une série, en effet, donc d'interviews, d'entretiens de la part de plaignants. Et ça s'est très bien coordonné. C'est-à-dire que c'est arrivé au moment même où nous étions dans les voitures de police. Tout le monde, à ce moment-là, a commencé à parler, à balancer des informations. Nous étions évidemment coupables et rien n'était vérifié. Nous avons été lynchés médiatiquement. Et la chose tout à fait étonnante, c'est que je dois dire qu'il y a eu là une formidable dérive médiatique.
Donc, vous nous dites que vous n'avez pas fait chanter le roi du Maroc, j'insiste.
Ah mais attendez, si jamais j'avais fait chanter le roi du Maroc, soyons clairs, je veux dire, avec tout ce qui a fuité, je dirais de façon totalement coupée et édulcorée dans la presse, et morceau soigneusement choisi, vous pensez bien qu'ils auraient été ravis, bien entendu, ravis de publier ces éléments. Donc tous ces éléments.
Vous nous dites que ce n'est pas du chantage, mais il y a bien un deal financier. C'est-à-dire que j'ai accepté de ne pas publier mon enquête, ce qui fait quand même l'essence de votre travail.
Non.
Contre attendez. De l'argent.
Il y a deux choses. D'abord, je dois dire que je peux revenir là-dessus, Yves. J'ai été choqué des propos qu'a tenu donc l'avocat donc du palais Dupond-Moretti, qui est un homme maintenant grisé par les ors, j'imagine, et qui est devenu qui n'est même plus, à mon avis, de mon point de vue, un citoyen français. Maintenant, il est devenu un sujet marocain. Il n'est pas un sujet marocain, Dupond-Moretti. Il est un courtisan marocain. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui un homme qui donne effectivement des gages, voilà, à son employeur. Et qui a commencé par dire que le 23 juillet, j'avais téléphoné au palais pour, en effet, donc demander de l'argent, en disant qu'en effet, j'avais un bourdeau et que sinon, je le publierais. Je mets au défi Dupond-Moretti, délirant personnage, en même temps que personnage pervers et vicieux, de trouver, effectivement, cet enregistrement. C'est impossible.
Voilà. Sauf que vous reconnaissez qu'un deal financier a bien eu lieu. Vous comprenez
mais attendez,
que c'est...
Non, mais attendez, je comprends rien. Je vais être très clair. C'est mon travail... Je veux dire, il y a 20 ans, 25 ans que je fais des livres d'enquête et je crois qu'aucun n'a été contesté. Alors après, je veux dire, ce deal, je n'ai pas proposé, on me l'a proposé de façon insidieuse. Il était évident qu'en effet, c'était pas pour dealer avec moi, c'était pour me piéger, bien entendu. Mais ce deal, je l'ai accepté et c'était un deal personnel. C'est une transaction. C'est mon travail, j'ai le droit de le publier, ou j'ai le droit également de ne pas le publier.
Ça pose d'autres questions à caractère déontologique, mais on y reviendra si vous voulez bien.
Pas là, pas là.
Qu'y a-t-il dans ce livre qui fasse peur au roi du Maroc ?
Ah ben, monsieur, beaucoup de choses à mon avis, c'est bien pour ça le problème. Le problème c'est que, en fait, je récidivais après un livre en 2012, qui s'appelait « Le roi prédateur », et qui est un livre où je montrais la prédation économique du pays, la mise en couperie du pays par Mohamed VI, voilà. Donc ça c'est le premier point, donc ce livre-là concernait davantage encore la famille. Donc régnante du Maroc, avec tout ce qui concernait notamment les problèmes autour d'héritage du père Hassan II, plus en effet le train de vie, plus que dispendieux. Bref, tout ça aurait été, si jamais c'était sorti, aurait ébranlé. Voilà, donc il aurait ébranlé probablement le royaume. Et quelque part, c'est très clair, je veux dire, il ne voulait pas que le livre sorte, mais en même temps, il voulait nous détruire. Il voulait nous détruire, c'est tout.
Alors, c'est votre téléphone qui est en train de sonner, mais ça, c'est pas très grave. J'insiste, quand on lit la retranscription de l'enregistrement qui a été publié par nos confrères du journal du dimanche hier, il semble que ce soit bien vous, Éric Laurent, qui sollicitiez l'avocat du roi du Maroc et qui, finalement, initiait... la vente de votre livre.
Mais non, alors, Yves Calvi, permettez-moi de vous dire que là encore, ce sont des éléments tronqués. Je veux dire, on regarde le détail, en effet, donc des procès-verbaux d'enregistrement, et on voit très bien que c'est le personnage, donc d'ailleurs affairiste notoire du palais, c'est l'homme qui s'occupe de la situation juridique des palais royaux.
Mais c'est avec vous que vous discutez quand même, c'est que vous êtes en train de me dire. J'ai en face de moi un escroc, sauf que vous êtes en train de lui vendre votre livre.
Non, mais c'est pas lui, c'est lui qui insinue. Après tout, ce livre est très gênant pour nous, etc. Est-ce que vous accepteriez un deal ? Ben oui, et j'accepte un deal. Je dis pourquoi pas sur le principe, mais j'y crois pas vraiment la première fois. Mais bien sûr que j'accepte un deal. Mais à aucun moment, je veux dire, et c'est là où c'est choquant encore une fois, je veux dire, ce deal qui était une transaction privée, que ça me regarde quand même. C'est mon ouvrage. J'en fais ce que je veux. Et transformé par la... Oui, j'en fais ce que je veux. C'est pas du domaine public, je suis désolé.
Vous êtes deux, hein. Vous avez un co-auteur.
Mais ma consoeur était tout à fait d'accord. Et cette transaction privée est transformée par la partie adverse en un chantage, enfin en tout cas une tentative de chantage de ma part. Mais c'est absurde.
Mais vous voulez nous dire que c'est un piège qu'on vous a tendu ?
Mais attendez, c'est pas un piège. Évidemment que c'est un piège. C'est pas un piège, c'est un traquenard. Et totalement, enfin.
Qui appelle le premier le palais
Mais j'appelle le palais le 23 juillet. Oui. J'appelle le palais le 23 juillet et je ne dis pas, écoutez, voilà, j'ai besoin absolument de 3 millions, sinon, en effet, vous allez voir, je vais publier un brûlot. Jamais, je vous dis, écoutez, soyons Yves Calvi, vous connaissez ce métier aussi bien que moi, si jamais ils avaient cet enregistrement, ils l'auraient publié depuis longtemps. Tout a été une campagne de désinformation, voilà, où on m'a amené, et je ne suis pas, vous regardez les enregistrements, je ne suis pas celui qui propose le deal financier, qui amène au deal financier.
Ce sera bien entendu à la justice.
Mais non, parce que...
Mais parce qu'au moment où nous parlons, vous êtes quand même mis en examen pour chantage et tentative d'extorsion de fonds, et en cela, vous n'êtes pas un accusé, mais il est normal qu'on vous pose des questions. Et je vous remercie de venir répondre ce matin en direct sur RTL. Est-ce que vous diriez au minimum que vous avez manqué de prudence ?
Oui, j'ai manqué de prudence, bien sûr, évidemment. Mais j'ai manqué de prudence, mais je n'imaginais pas qu'ils voulaient, à ce point-là, nous abattre. Le terme n'est pas grandiloquent. Je veux dire, je connais le palais de l'intérieur. En 88, j'ai fait un livre, un entretien avec le roi du Maroc, l'ancien Hassan II. Je sais comment fonctionne le Maroc. Je sais comment fonctionne le régime. Je connais les coulisses. Voilà, donc c'est tout.
Comprenez l'impression d'intrication, l'air malsain qu'on respire dans tout ça ? Je pense aussi à ceux qui nous écoutent, qui parfois ont lu vos livres et vos enquêtes et s'y sont intéressés, se disent « Ah bon, alors on peut acheter les bouquins comme ça, à la limite on peut vendre un chapitre et pas un autre. »
Mais ça n'a rien à voir.
L'honneur de l'enquêteur est donc, au sens général, des journalistes à
vous
en cause.
Vous savez, il y a une chose aussi. Ce livre, dans son contenu, était quand même suffisamment explosif pour qu'à un moment donné, il y ait une frontière, effectivement, que peut-être le journaliste d'investigation s'impose. Voilà. Parce que c'est vrai que même, quels que soient mes préventions envers ce régime et cette monarchie et les éléments que j'avais en ma possession, j'ai pas non plus envie que ça bascule, que le Maroc bascule dans une république islamique. Voilà, ça aussi. Il faut être quand même aussi lucide.
Vous nous dites, finalement, j'ai accepté de vendre mon travail, dont vous nous avez dit en début d'entretien qu'il n'appartenait qu'à vous, pour éviter la montée de l'islamisme au Maroc.
Mais c'est une
vous comprenez
raisons.
Que ça puisse, enfin, bon, au minimum, que ça puisse faire sourire.
Pourquoi ça fait sourire ?
Il y avait une conjonction. Parce qu'on parle d'histoire de fric initialement.
Pardon ? La déontologie, je n'ai absolument pas de leçon à recevoir. Vraiment pas de leçon à recevoir. J'ai fait depuis 30 ans ce métier, je dis, avec, je crois, une certaine rigueur. On n'a jamais vu me coincer sur quoi que ce soit dans tous mes livres précédents. Donc, là, non, ça, c'est pas recevable.
Alors, Éric Laurent,
c'est pas, encore une fois, ça n'est pas du chantage, je tiens à le prendre. Il n'y a aucun dans ce dossier, aucun élément qui prouve, en effet, ou qui montre que c'est du chantage. Au point que, d'ailleurs, lorsque je rencontre le type la deuxième fois, il a son portable devant lui sur la table. Je sais très bien qu'on peut enregistrer. Mais à aucun moment, je lui dis, écoutez, cachez-le, mettez-le ailleurs, etc., parce qu'il faut qu'on discute de choses comme sensibles. Et pas du tout, à aucun moment. Parce que je n'ai, dans ce que je dis, rien qui ressemble à du chantage, rien même de près ou de loin. Et ça, Dupond-Moretti dit n'importe quoi.
Le livre sortira-t-il, Éric Laurent, comme le dit votre consoeur co-auteur ce matin dans Le Parisien ?
Ah, moi, je serais partisan de sortir, et sans hésiter.
Non, je serais partisan
Il
va sortir. Votre éditeur a quand même le droit d'être surpris. Parce que vous avez signé un avaloir avec eux, c'est-à-dire qu'en gros, ils vous ont donné de l'argent pour écrire un livre. Ailleurs, au même moment, vous le vendez.
Mais attendez, je rembourse à Valoir aussi, où est le problème ? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une transaction financière. Attends, j'ai fait des livres depuis 30 ans, encore une fois. J'ai fait des livres depuis 30 ans, et en quoi est-ce que je grugeais un éditeur qui en plus n'a manifesté aucune solidarité envers moi depuis que je suis sorti d'ailleurs de garde à vue.
On s'interroge parfois sur les liens entre l'État en France et au Maroc. Est-ce que vous pensez que ces deux pays sont complices dans les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ?
Évidemment, bien sûr. Attendez, quand j'ai vu le déploiement de police, quand je suis arrivé, effectivement, donc au début de ma garde à vue d'abord, il y a une première.
Les policiers font leur boulot, non ? Et puis un juge vous a mis en examen ?
Non, il y en a trois.
Très bien. Et puis trois juges vous ont mis en examen.
Voilà, c'est quand même assez disproportionné. Vous savez, quand on m'a arrêté, donc on m'a brandi une carte de police, et puis on m'a conduit effectivement donc en voiture. Ils étaient trois et j'étais sur le périphérique. Et sur le périphérique, je trouvais très étrange parce que je voyais pas où on pouvait aller. Et tout d'un coup, j'ai vu devant moi, on était peur d'Orléans, et je vois devant moi Orly. Je vais vous dire une chose très claire. Je vois Orly, je me dis merde. ça va pas recommencer, je vais pas être embarqué dans un avion pour le Maroc, et là je disparaissais ex nihilo. Voilà, c'était comme ça. Je dis, mais on va où exactement? Ils me disent, on va à rue du Château des Rentiers. Je dis, vous pouvez me monter votre carte? Et voilà, ils me disent, voilà, nous sommes à la brigade. Là, j'ai été rassuré. Parce que quand même, la France, c'est le théâtre et le pays favori du Maroc pour monter ses coups tordus. Je veux dire, il y a quelques années encore, on tuait les opposants physiquement. Maintenant, on les tue en détruisant leur respectabilité et leur vie professionnelle.
Vous regrettez d'avoir accepté cette transaction financière? C'est ma dernière question.
La question n'est pas là, parce que c'est trop tard. Voilà. Mais je veux dire, d'un point de vue moral, encore une fois, c'est une transaction privée. Je veux dire, j'aurais fait chanter le roi du Maroc aujourd'hui. Vous imaginez dans quelle situation je serais? J'aurais fait chanter le roi du Maroc. Mais bien sûr, là, je serais extrêmement mal à l'aise. Je ne serais pas venu, je ne serais pas accédé à votre interview. Mais par contre, il y a une chose qui est extrêmement importante. C'est que j'ai vu se déployer. J'ai dit aux policiers, j'ai dit, mais comment peut-il y avoir autant de monde mobilisé autour de cette affaire? Et le commandant, donc dirigeant l'interrogatoire, m'a dit, mais vous savez, on n'est pas dupes, hein. Il y a des marionnettistes autour de nous, au-dessus de nous, qui tirent les fils. Mais nous, on est obligés de faire notre travail, voilà. Et c'est tout. Et la juge d'instruction, en me mettant en examen, ainsi que Catherine Gracier, a fait son travail, qui consistait aussi à donner une première fois satisfaction au Maroc, voilà. Et au roi du Maroc, aux caprices du roi du Maroc.
C'est une transaction de droit privé, nous dites-vous ce matin sur RTL, Éric Laurent. La justice aura bien entendu à trancher cette affaire. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en direct vous expliquer sur l'antenne d'RTL.